Nous continuons à écouter cette parole que le Seigneur nous adresse. Nous sommes depuis quelques semaines dans la méditation du sermon sur la montagne et l'enseignement de Jésus à ses disciples. Et après avoir entendu la semaine dernière l'invitation à une piété qui ne soit pas ostentatoire, le Seigneur nous indique comment il envisage et nous invite à nous approcher de notre Dieu. Je vous invite à lire dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 5. Matthieu 6 à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous ne le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Comment nous approcher de Dieu? Avec quels mots, avec quelles attitudes nous présenter devant le Seigneur, l'unique au-dessus de tout et de tous, Créateur du ciel et de la terre? Reconnaissons que nous serions bien démunis si nous étions livrés à nos seules intuitions, à nos seules tentatives. Jésus, en enseignant ses disciples, a eu soin de leur donner, de nous donner un appui magnifique pour cette démarche de nous approcher de Dieu. Il fixe un cadre, le lieu secret, plutôt que la mise en scène publique, et nous dit par là que la prière peut être intimité. Il donne un état d'esprit, la confiance paisible, plutôt que le harcèlement désespéré ou la multiplication des paroles. Quant à ce qu'il nous faut dire devant Dieu, Jésus est allé jusqu'à nous donner une prière qu'il a pensée, qu'il a ciselée lui-même pour nous, un magnifique cadeau, une prière inépuisable, capable d'accompagner chacune de nos journées et d'éclairer n'importe quelle situation. Le noyau autour duquel tout cela s'organise tient en un mot, un nom, une appellation. Dieu est votre Père, nous dit Jésus. Votre Père céleste, qui habite une lumière inaccessible, mais votre Père tout proche, qui est là, auprès de vous, dans le lieu secret de votre intimité. Votre Père bienveillant, attentif à vous, à vos besoins, et qui est déjà en projet pour vous avant même que vous ne commenciez à lui parler. Lorsque vous priez, dites « Notre Père ». C'est le cœur de l'enseignement de Jésus. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec cette simplicité, avec cette assurance. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec ce mot magnifique que nous n'avons pas arraché au Seigneur par témérité ou par besoin, mais qui nous est donné par Jésus lui-même. Tu n'es plus esclave, mais fils, s'exclamera ébloui l'apôtre Paul. Lorsque vous priez, dites « Notre Père ». Pour certains, prier, c'est s'adresser à un Dieu très vague ou très lointain, ou à un Seigneur écrasant, un absolu, qui exige la soumission. Pour d'autres encore, tristement, Dieu est si lointain, si impersonnel, qu'on ne le nomme même plus. Jésus, lui, aimait appeler Dieu son Père. C'était un trait caractéristique chez lui. Personne avant lui n'a employé ce mot avec la note personnelle qu'on trouve chez Jésus, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le judaïsme de son temps. Ses contemporains étaient frappés par cette différence. Il appelait Dieu son propre Père, lit-on en Jean 5, verset 18. Et c'était plus qu'une différence de mots, c'était la richesse d'une relation forte, vivante. Alors bien sûr, pour Jésus, ce mot « Père » dit une relation unique, dont l'origine est éternelle et inexprimable. De toute éternité en Dieu, le Père se retrouve dans un autre lui-même, dans un vis-à-vis ineffable, où Dieu se donne à Dieu dans un amour total, amour tour à tour donné et accepté. Et Dieu est ainsi Père et Fils, dans cette distinction personnelle toute d'amour et de don. Et cet amour vis-à-vis devient amour communion en un troisième, l'Esprit, qui partage tout ce que sont le Père et le Fils en le recevant d'eux et en le leur rendant dans l'amour. De ce mouvement incessant qui fait la vie de Dieu, le Père est l'origine et la source infinie, éternelle, inépuisable. Et dans la personne de Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme, la lumière de cette joie éternelle a irrigué la conscience de Jésus dans son humanité. Le mot « Père » renvoie pour lui au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Mais Jésus nous invite à notre niveau, à nous, à dire de la même façon que lui « Père ». En nous approchant de Dieu. Nous ne pouvons le dire que parce que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, a voulu être notre Père à nous aussi, et ceci malgré notre péché, et ceci malgré notre rébellion, malgré nos indifférences à son égard. Nous ne pouvons dire Père que parce que le Père a envoyé et donné son Fils, son unique, qui est venu dans le monde. Et d'un commun accord entre le Père et le Fils, avec le soutien de l'Esprit, Jésus s'est donné pour nous, a endossé notre condamnation, pris sur lui nos péchés pour nous en délivrer. Et c'est grâce à la justice du Christ que nous avons désormais un accès auprès du Père, si nous reconnaissons nos péchés et si nous mettons toute notre confiance en son œuvre de salut. Et l'Esprit est là pour attester du fond de notre conscience que oui, c'est vrai, nous sommes bien enfants de Dieu, bel et bien enfants de Dieu. Cette relation de fils à père, elle était éternelle pour le fils venu du père. Pour nous, elle nous est donnée. Mais elle a eu un prix, l'engagement de Dieu tout entier, sans compter. Et elle nous parle maintenant de l'assurance que nous pouvons avoir d'être acceptés comme des fils, comme des filles, totalement aimés. Elle nous dit que nous sommes désormais chez nous, auprès de Dieu. Elle nous parle du soin que Dieu a pour nous, de sa patience éducative, de ses projets pour nous, de son attachement à nous, de son amour entier. Elle nous invite aussi à la ressemblance filiale. Et où se trouve l'air de famille? C'est en Jésus qu'on le découvre, l'air de famille. Lui qui s'est fait notre frère en prenant notre condition humaine, mais lui qui est aussi le parfait reflet du Père. Mais en nous invitant à dire comme lui, Père, Jésus nous invite à entrer dans la joie d'une approche de Dieu où l'on se sait totalement aimé et où l'on répond à cet amour dans la confiance et la liberté. Il en est le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Il en est le fondement. Et comme un chef d'orchestre qui donne la note, qui donne le « la », sur laquelle tous les autres pourront s'accorder, Jésus nous donne la note qu'apporte cette certitude que Dieu est notre Père céleste. Et cette note, c'est que notre vie pourra désormais s'enraciner dans la confiance en Dieu et y puiser une vraie sérénité. Lorsque vous priez, dit Jésus, ne rabâchez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait, il sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le demandiez. Votre Père sait. La relation avec lui ne consiste pas à l'informer de ce qui va ou de ce qui ne va pas. Ne consiste pas à devoir réveiller sa mémoire défaillante. Il sait. Nous pouvons donc venir sans rien cacher. Il sait déjà. Et si nous prions, c'est d'abord un partage. C'est d'abord une communion à laquelle il nous invite, lui qui sait déjà tout. Une communion avec celui qui sait, qui connaît tout et qui s'intéresse à nous. Votre Père sait et il connaît ce dont vous avez besoin, nous dit Jésus. Nous n'avons donc pas à rabâcher, à multiplier les demandes, à crier, à gesticuler comme si nous n'avions pas d'autre source de confiance que ce rabâchage. Nous pouvons avoir confiance bien plus tôt dans son bon souci de nous et dans ses projets bienveillants. Votre Père sait. C'est aussi l'apaisement de pouvoir lui confier dans la soumission, dans la confiance, tout ce qui est lourd, ce dont nous ne voyons peut-être pas l'issue. Votre Père sait. Et Jésus nous invite à grandir dans la confiance en Dieu, dans cette confiance en Dieu, confiance en son amour, sa bienveillance pour nous, et à développer une prière qui soit dialogue, liberté, partage. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne crie pas parfois, ou qu'on n'insiste pas parfois, lorsque l'on porte quelque chose très fortement devant Dieu. Mais cette insistance est celle du partage, justement, où l'on dit à notre Père Céleste ce que l'on vit, ce que, dont on a besoin. Mais elle n'est pas un rapport de force où il faudrait forcer la main à Dieu, ni celle du défi permanent qu'on lancerait à Dieu. La confiance, l'apaisement, votre Père sait. Nous avons tous besoin et constamment de grandir en cette confiance en notre Père céleste. Pour certains, cela veut dire apprendre cette sérénité qui s'ancre dans la certitude de l'amour de Dieu qui est un vrai Père pour nous. Pour d'autres, grandir dans la confiance voudra dire apprendre à combattre dans la prière, dans un amour engagé, dans une attente forte de Dieu, où l'on sait demander, lutter, et s'en remettre ensuite au Seigneur dans la confiance, la soumission. Car notre Père est aux cieux, nous dit Jésus. Il est Seigneur au-dessus de toutes choses. Il a la maîtrise. Il a l'autorité de cette maîtrise aussi. Il sait faire travailler toutes choses à la réalisation de ses plans. Et il est proche de nous, jusque dans le secret. Là, présent, bienveillant, au moindre repli de notre âme, au moindre soupir de notre cœur. Votre Père céleste, c'est de lui que vous pouvez vous approcher, nous dit Jésus. Un magnifique cadeau qu'il nous a fait lui-même, lui qui est le chemin vers le Père. Et pour nous approcher de notre Père, Jésus nous a donné une prière merveilleuse, le Notre Père. Comment l'utiliser, cette prière? Il nous faut d'abord l'estimer à sa juste valeur, cette prière donnée par Jésus. Elle est un don de Jésus pour ses disciples, un don de Jésus pour nous. Jésus n'a pas juste improvisé cette prière quand on nous disait « Apprends-nous à prier et je vous fais à prier et je vous fais une petite prière comme cela. » Jésus a pensé cette prière. Jésus a ciselé cette prière. Jésus a voulu cette prière pour nous la donner, de telle sorte qu'elle soit le meilleur pour nous. C'est le meilleur des guides pour la prière. Avec cette prière, nous serons toujours en phase avec Dieu. Elle est un modèle d'équilibre. Elle peut accompagner toute une vie spirituelle. Cette prière, on peut la prier ou la chanter telle qu'elle, avec les mots de Jésus simplement, en pensant à ce que nous disons. Mais certainement que la façon la plus riche de la prier est certainement de la reprendre phrase après phrase et en faisant des mots de Jésus un tremplin pour notre parole devant Dieu, notre méditation en sa présence, notre reprise personnelle de ce que Jésus nous invite à dire. Et le Notre Père peut ainsi structurer notre prière, former l'ossature, donner l'orientation avec les mots donnés par Jésus dont on se saisit, qu'on laisse résonner en nous pour qu'ils fassent leur chemin en notre âme face à ce que nous vivons et devant Dieu notre Père. Et cela, c'est inépuisable, cette manière de prier le Notre Père. Et cela, ça nous rencontre de mille et une manières, de façon toujours neuve, toujours bienfaisante et souvent totalement imprévisible. On a fait du Notre Père une punition. Tu prieras cinq Notre Père, comme on copiait 100 fois, je ne dois pas reparler en classe. Alors que notre Père, que le Notre Père, est une pure bénédiction. On en a fait une prière mécanique qu'on récite sans penser. Alors que Jésus venait de nous dire de ne pas multiplier les paroles à la manière des païens qui s'imaginent que c'est juste à force de paroles qu'ils seront exaucés. Et devant ces excès, ces mauvaises utilisations du Notre Père, nous, évangéliques, bêtes comme nous le sommes parfois, nous avons pensé plus spirituel de négliger ce trésor, de mépriser ce don que notre Seigneur Jésus nous avait pourtant fait. Nous nous sommes laissés voler parfois un chef-d'œuvre par refus de ces pâles imitations. En ce qui me concerne, s'il ne me reste qu'une prière dans ma vie, j'espère que ce sera celle-là. Si je deviens Alzheimer ou sur mon lit de mort, j'espère qu'il me restera cette prière. Mais avant ses extrémités, elle a tant de lumière à nous donner. Le Notre Père est un cadeau que Jésus nous a fait. Mais il n'est pas un carcan. Jésus a prié d'autres prières et sur d'autres modèles que celui du Notre Père. Ce qui veut dire qu'il y a liberté pour le Notre Père et liberté pour d'autres prières que le Notre Père dans notre vie. Mais le cadeau est d'avoir avec le Notre Père une prière qui sera toujours en phase avec Dieu et une prière parfaitement adaptée à ce que nous sommes, à nos besoins, à nos essentiels. Et quand l'Esprit utilise les paroles de Jésus pour nous conduire au Père, il ne peut y avoir que les bienfaits. Alors que découvrons-nous au fil de cette prière? Alors je propose que nous considérions juste quelques orientations générales du Notre Père. Et je pense que la prochaine fois, lors de la prochaine prédication, je reviendrai sur chaque requête plus particulièrement. Que découvrons-nous lorsque nous prions le Notre Père, cette prière que Jésus nous a laissée? C'est d'abord une prière de confiance, nous l'avons déjà dit. Le premier mot est celui de Père. C'est toute la proximité de Dieu que l'on peut laisser retentir en nous, la joie de lui appartenir, l'initiative du salut en Dieu le Père, l'œuvre de Jésus-Christ pour nous donner un libre accès auprès du Père, le soutien intérieur du Saint-Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes bien enfants de Dieu, la confiance, oui, la joie d'être accepté, d'être accueilli, d'avoir une place en la présence de celui qui nous aime, la confiance que nous sommes entre ses mains, son projet aussi de nous transformer, de nous faire grandir, et son acceptation de nous aussi, au point où nous en sommes, même si nous venons à lui tel que nous sommes. Un père ne rejette jamais son enfant qui vient à lui tel qu'il est. Oui, c'est d'abord cette confiance dans laquelle baigne la prière et qui est là dans ce simple mot que nous disons « Notre Père qui es aux cieux ». Mais cette prière, c'est ensuite aussi et immédiatement un décentrage magnifique. Car souvent, lorsque nous prions, nous n'avons qu'une hâte, dire à Dieu tout ce qui nous traverse, tout ce qui préoccupe. Écoute, Seigneur, j'ai besoin. Écoute, Seigneur, ce souci qui me ronge. Tu vois, Seigneur, j'ai besoin, j'ai besoin. Et parfois, on est tellement pris par mille choses qui sont dans notre tête qu'on n'arrive même pas à se concentrer sur ce que l'on dit. Et on est tous comme cela, à vouloir constamment et immédiatement déverser sur Dieu la masse des choses qui nous préoccupent, qui nous oppressent, qui nous concernent. Et Jésus, lui, nous invite à autre chose, à une autre priorité. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » C'est le décentrage tout de suite. L'ouverture à plus large. L'attention au Seigneur lui-même. La priorité à ce qu'il est, à ce qu'il veut, à ce qu'il aime. Et ça donne à notre prière la dimension du dialogue, de la présence de Dieu vraiment en face de nous. Ces trois requêtes, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, nous conduisent à cultiver le souci de Dieu, le souci de sa personne, le souci de sa volonté, le souci de son projet. C'est donner priorité au Seigneur, c'est lui accorder dans notre prière une attention véritable. Ne pas laisser Dieu sur le quai, alors le quai de nos prières, alors que le train a déjà démarré. Jésus nous invite à faire de cette attention à Dieu une discipline de notre prière. Et il nous en donne les mots. Et c'est juste si bon, si bienfaisant de pouvoir le faire. C'est aussi une réorientation de la prière. Ça nous rappelle que Dieu n'est pas à notre service lorsque nous prions, mais que c'est nous qui cherchons à nous mettre en phase avec le Seigneur, ce qu'il est, ce qu'il veut, ce qu'il aime. Un rééquilibrage tellement bon, tellement bienfaisant. Et puis c'est aussi une ouverture de nos prières. D'autres objectifs, quand on pense au règne de Dieu, à sa volonté, quand on pense à son nom, ce qu'il est, d'autres objectifs vont primer sur nos petits objectifs à nous, sur notre petit moi à nous. D'autres perspectives peuvent nous habiter que celles de nos seuls désirs, de nos seuls besoins. Ça nous appelle à prier plus large, à nous ouvrir à la dimension des choses vues du côté du Seigneur. Et puis enfin, c'est un apaisement à nos prières. Prendre le temps de penser à Dieu, à ses intérêts avant les nôtres, c'est tellement apaisant. Prendre le temps de penser à qui est Dieu, à son règne, à sa volonté. Quand on fait cela, on voit autrement les choses de notre propre vie qui nous préoccupent. Et la lumière de ces réalités que veut Dieu, que désire Dieu, présente et à venir, peut éclairer ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, un décentrage de cette prière, mais un décentrage tellement bienfaisant. Ce décentrage, deuxièmement, et cette ouverture fonctionne aussi comme un miroir. Et prier le Notre Père, c'est aussi pour nous une occasion de faire le point personnellement devant notre Dieu. Car quand je prie que le nom de Dieu soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite, je le dis d'un côté très largement, oui, je voudrais que globalement tout cela arrive, mais je suis moi aussi, qui m'approche de Dieu, tellement concerné par cette demande. Est-ce que dans ma vie, ces choses se réalisent ? Est-ce que ton nom, Seigneur, est sanctifié par ma vie, dans ma vie ? Est-ce que ta volonté est faite dans ma vie ? Est-ce que tu règnes dans ma vie ? Et me voilà devant Dieu, à la fois dans l'ouverture avec ce qu'il veut faire largement dans le monde et avec ce questionnement très personnel sur la place qu'il a concrètement dans ma vie. Et c'est si bon de faire ce point aussi en s'approchant de Dieu. Tant de choses peuvent se mettre en ordre à leur juste place lorsque nous prions cela sérieusement pour nous aussi. Nous pouvons nous présenter devant Dieu tel que nous sommes et le laisser faire sa lumière en nous. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Un miroir où nous pouvons vraiment nous situer devant Dieu. Mais Jésus, dans cette prière, nous invite ensuite à faire connaître à notre Père les besoins qui sont les nôtres. Et c'est le troisième aspect de cette prière. Et l'équilibre est très beau entre ces deux temps de la prière. Il dit avec force que la prière est une relation où chacun existe pleinement. Nous avons le souci de Dieu, oui, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite. Mais en même temps, le souci de Dieu ne nous conduit pas à l'oubli de nous-mêmes. Et Jésus légitime que nous prions aussi pour nous-mêmes, en demandant au Seigneur le pain dont nous avons besoin, le pardon, la force pour résister à la tentation. Il est légitime que nous prions pour nous-mêmes. Cette prière pour nous est bonne et nécessaire. Il faut que nous parlions à notre Père de nous-mêmes. C'est une invitation, c'est une permission, c'est aussi un ordre d'une certaine façon parce que nous avons besoin de Dieu. Nous pouvons faire connaître à Dieu nos besoins. Mais à vrai dire, les requêtes que Jésus nous invite à dire, à prononcer pour nous-mêmes, sont aussi assez pédagogiques et nous orientent dans des lignes que peut-être nous ne suivons pas naturellement. La première requête, celle pour le pain, est large. Avec cette requête, nous prions pour nos besoins fondamentaux dans l'ordre de ce que nous éprouvons. Dire à Dieu, j'ai besoin de pain, de tout ce qui nourrit ma vie. Et c'est bon de pouvoir parler librement à Dieu et de dire vraiment nos besoins concrets. Mais la demande du pardon qui suit nous ouvre à autre chose. Elle nous ouvre à l'examen de nous-mêmes en toute honnêteté, tout en nous rappelant la grâce de notre Dieu, car c'est Jésus qui nous invite à dire « pardonne-nous nos offenses ». Mais c'est l'occasion de penser à notre vie devant Dieu, tout en sachant que le pardon se trouve auprès de lui. Avec le « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent », là c'est toute la dimension éthique de notre vie qui soudain jaillit. Je demande grâce à Dieu, mais moi, est-ce que je fais grâce ? Je reçois de Dieu, qu'est-ce que je donne aux autres ? Après le pardon, s'invite dans la prière la réalité de nos tentations. Une manière de dire aussi qu'il ne faut pas juste demander pardon toujours, mais aussi être vigilant, attentif au mal, attentif à nos faiblesses, conscient de cela, et apporter aussi nos faiblesses à notre Dieu. Mais la prière nous dit en même temps que nous pouvons être soutenus dans nos combats, délivrés du mal et du malin. Délivre-nous, ne nous soumets pas ou ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Et ceci dans l'attente de la délivrance finale. Quelle belle école que de suivre régulièrement cet ordre de demande donné par le Seigneur. C'est tellement équilibrant, tellement structurant pour notre vie, pour nous aider dans nos besoins, ce que nous ressentons nous-mêmes immédiatement et les autres vrais besoins auxquels Jésus veut nous rendre attentifs. Mais cette prière est aussi une prière aux dimensions multiples. Et j'aimerais en souligner quelques-unes. J'ai parlé du dialogue entre Dieu et chacun de nous, voulu par Jésus dans le Notre Père. Mais Jésus a formulé cette prière de telle sorte qu'elle nous ouvre à d'autres dimensions encore que le simple vis-à-vis entre Dieu et moi. Et dans sa simplicité, la prière que Jésus nous a laissée est magnifiquement englobante. Il y a d'abord le rapport entre « je » et « nous ». Jésus ne nous invite pas à dire « mon Père », bien que l'intimité soit possible entre Dieu et nous très personnellement. Mais Jésus nous appelle à dire « notre Père ». Et voilà tout d'un coup, avec ce « notre Père », toute la famille de Dieu qui s'invite dans notre prière. Nos frères et nos sœurs de l'Église, du Tabernacle, nos frères et sœurs de France, de Côte d'Ivoire, des Antilles, ils sont là dans ce « notre Père ». Nos frères et nos sœurs d'autres confessions chrétiennes aussi, qui appartiennent véritablement au Seigneur, ils sont là dans ce « Notre Père ». Et nous pouvons nous réjouir de ce que le peuple de Dieu soit plus large que simplement celui de nos confessions, de nos cercles à nous. Nos frères et nos sœurs pour qui tout va bien, nos frères et nos sœurs souffrants également sont là dans ce « Notre Père ». La partie du corps du Christ persécuté est là aussi dans ce « Notre Père ». Ceux qui nous ont devancés auprès du Seigneur sont même là, dans ce « Notre Père ». Et nous pouvons faire mémoire de ceux qui déjà sont accueillis auprès du Seigneur et dans sa gloire. Bien sûr, on ne prie pas pour eux, mais en disant « Notre Père », on peut remercier le Seigneur de ce que ceux que nous avons aimés et qui sont partis, sont auprès du Seigneur, s'ils l'ont accepté comme leur sauveur. Autrement dit, nous ne sommes pas seuls lorsque nous prions le Notre Père. Nous ne sommes pas seuls devant Dieu. Nous venons avec nos frères, avec nos sœurs. Dieu nous veut unis comme sa famille. L'Église est là lorsque nous prions Notre Père. Mais le monde est aussi présent dans l'horizon de cette prière. Le règne de Dieu, que ton règne vienne, cela concerne notre vie personnelle, bien sûr, cela s'applique à notre vie d'Église, mais cela concerne aussi le monde tout entier, que ton règne vienne. Ça nous invite à prier pour la propagation de l'Évangile qui manifeste le règne de Dieu dans ce monde. Délivre-nous du mal, nous demande de prier Jésus. et ce délivre-nous du mal, nous le prions en résonance avec le mal qui partout sur la terre crée tant d'horreur, tant de souffrance. C'est une prière solidaire. Lorsque nous prions, délivre-nous du mal. Nous prions là pour la France, nous prions là pour la Syrie, nous prions là avec tous ceux qui souffrent. Et nous prions, délivre-nous du mal, sans aucune supériorité de l'un par rapport aux autres. Car nous, les premiers, en Occident, nous avons besoin d'être délivrés du mal qui gangrène tellement notre société par tant de façons, avec ce matérialisme qui nous laisse tous loin de Dieu et loin des normes de Dieu. Et lorsque nous prions pour le quotidien, pour le pain quotidien, avec le « donne-nous notre pain quotidien », comment ne pas penser aussi à ceux qui crient pour ce que nous avons en abondance. Le monde est présent dans cette prière et nous pouvons laisser retentir tout le bruit du monde, toute la souffrance du monde et les porter aussi dans cette prière telle que Jésus nous l'a laissée. Et puis cette prière unit aussi très fortement le présent et l'avenir. Le règne de Dieu, c'est l'impact de l'Évangile, son extension, sa manifestation aujourd'hui dans nos vies, dans l'Église et dans tous les lieux où l'Évangile manifeste sa puissance. Mais le règne de Dieu pour lequel nous prions, c'est aussi et tellement ce que nous attendons encore, ce que nous attendons enfin. La volonté de Dieu sur la terre comme au ciel, c'est cette nouveauté magnifique que le Seigneur instaurera à son retour après le jugement des vivants et des morts, lorsqu'il fera toute chose nouvelle, et qu'alors seulement, la terre entière sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme l'eau couvre le fond des mers. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, c'est ça ce que ça veut dire. Nous attendons cela encore. C'est notre espérance lorsque nous disons cela. Et prier de notre Père nous fait immanquablement crier « Mais viens Seigneur Jésus !» tout en nous rappelant que dès maintenant, nous avons à manifester quelque chose de ce que Dieu fera en plénitude. Tant de dimensions dans cette prière, moi et nous, le peuple de Dieu, la famille de Dieu, le monde, le présent, l'avenir. Et la prière se termine par une doxologie, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au ciel des siècles. C'est magnifique que cela se termine comme cela. Cela dit vraiment que toutes les ressources sont en Dieu. Il possède toutes choses. Tout ce que nous demandons, il le possède. Il le possède en abondance, en toute puissance. Ça nous rappelle aussi les dimensions éternelles du plan de Dieu. Au siècle des siècles, la puissance à toi, le règne et la gloire. Cela nous dit ces dimensions éternelles du plan de Dieu dont nous sommes par grâce participants. La prière se termine ainsi sur une note tellement bienfaisante, tellement encourageante, une affirmation d'espérance, une joie dans l'espérance, la certitude de ce que Dieu fera, la certitude de ce que Dieu possède en lui-même. Et c'est ainsi que nous devons sortir et que nous pouvons sortir de la prière. Et elle ne nous laisse pas comme nous y sommes entrés. Nous la quittons, forts d'un parcours, mais aussi d'une certitude. Le Seigneur a les ressources de toutes choses. Quelles que soient nos demandes, quels que soient nos besoins, nous ne les adressons pas en vain à notre Dieu, car il a la puissance d'accomplir toutes choses et de le faire en suffisance, en abondance. La doxologie nous dit que Dieu est à la hauteur de ce que nous lui demandons et il reste avec nous, ce Dieu-là, alors que nous quittons la prière et que nous prenons le chemin de notre vie, de nos activités. Voilà quelques-unes des dimensions de la prière que Jésus nous a laissée. Une prière trop belle, vraiment trop belle, pour s'en priver. Entrons donc régulièrement dans la prière des fils et des filles de Dieu, riches d'avoir dans le Seigneur un Père céleste plein de bienveillance et de puissance. Heureux d'avoir en Jésus celui qui nous permet de nous approcher en toute assurance de ce Père céleste pour en goûter la bonté, et fortifié par l'Esprit en notre être intérieur pour discerner toutes les ressources de notre Dieu pour nous, quelles que soient nos situations, quelles que soient nos circonstances, quels que soient nos besoins. Je termine en citant une prière de l'apôtre Paul qui est dans la droite ligne de la fin du Notre Père. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.